Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Non. Hélas, non. Nous ne nous souvenons pas de nous bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous. Nous sommes toujours avec Sharon Pepperkamp, chercheuse en sciences cognitives et psycholinguiste. Sharon Pepperkamp travaille sur les mécanismes d'apprentissage des langues maternelles chez les bébés lors de leur première année de vie. Dans l'épisode précédent de ce podcast, nous avons appris que les bébés sont des virtuoses de la statistique et qu'ils ne cessent d'analyser ce qu'ils entendent. Sharon Pepperkamp ne cache pas son émerveillement devant ces bébés qui sont des génies pour tout ce qui concerne l'apprentissage de leur langue maternelle. Mais que se passe-t-il quand les bébés entendent plusieurs langues dans leur environnement?
Donc il y a à peu près 5 à 6 000 langues parlées mondialement. Et on estime que la majorité des bébés, en fait, apprennent au moins 2 langues à la fois. Donc, la majorité de la population mondiale parle au moins 2 langues et ces langues sont apprises pendant la petite enfance. Et donc, déjà, on peut se poser la première question, mais comment font les bébés pour savoir combien il y a de langues dans leur environnement? Et ça, c'est une question qu'ils résolvent en fait assez rapidement. Prenons le cas du catalan et de l'espagnol. Donc, ce sont 2 langues qui sont très proches. Et donc, on sait qu'à 4 mois, les bébés espagnols et les bébés catalans, ils font déjà la différence, ils savent déjà s'ils entendent la langue A ou la langue B. Et donc, comment ils font ça? On ne sait pas très exactement, en fait. Et il y a évidemment, acoustiquement, il y a des différences. Il y a aussi l'évidence que les bébés font attention aux indices visuels. Donc, par exemple, si on a une langue avec beaucoup de consonnes labiales, donc pe, me, be, donc on voit que mes lèvres sont fermées. Si on compare ça à une langue où il y a très peu de consonnes labiales, ben peut-être ça peut être un indice visuel qui aide à faire la distinction entre les 2 langues. Il peut aussi y avoir des différences contextuelles ou sociaux, notamment quand on est dans une famille où on parle plusieurs langues. S'il y a un parent qui parle une langue et l'autre parent qui parle l'autre langue, ça peut aider le bébé à faire la séparation. Alors, il y a quand même un couac, parce que ce qu'on sait aussi, c'est que dans ces familles bilingues, il y a souvent les 2 parents qui parlent aussi la langue de leur conjoint, mais avec un accent étranger.
Ouais.
Et il y a des recherches qui montrent que, donc ça c'est une étude qui a été faite avec des bébés anglais qui entendent aussi l'espagnol.
Ouais.
Et donc quand l'espagnol est parlé avec un accent anglais, un accent étranger, ils ont du mal à faire la discrimination. Tandis que quand c'est parlé par des bilingues parfaites qui parlent aussi bien l'espagnol et l'accent comme un locuteur de la langue maternelle, alors ils peuvent faire cette discrimination. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est difficile pour les bébés de savoir, premièrement, combien il y a de langues dans mon environnement. Là, je parle de 2 langues, mais il peut y en avoir 3 ou 4 ou 5, hein, ça arrive réellement. Et deuxièmement, comment ils comprennent à faire la différenciation entre ces 2 langues ou entre ces 3 ou 4 ou 5 langues. C'est vraiment pas évident.
Et ça, on ne sait pas. À part les indices visuels, on ne sait pas encore.
Et les indices acoustiques, et évidemment.
Mais la prosodie, sinon on ne sait pas exactement comment elles font.
Non, il y a pour l'instant, il n'y a pas d'algorithme ultra précis qui peut refléter cette trajectoire des bébés dans ce développement. Après, il faut aussi savoir, une fois qu'on sait qu'il y a du catalan et il y a de l'espagnol dans mon environnement, comment je fais en tant que bébé? Maintenant, à chaque fois que j'entends une phrase, je dois aussi savoir, est-ce que c'était du catalan ou est-ce que c'était de l'espagnol? Ça, c'est encore autre chose. D'autant que les phrases que les bébés entendent, souvent, sont très courtes. Évidemment, ils entendent aussi des phrases dans leur environnement quand les parents parlent entre eux, mais on a tendance à quand même parler dans des phrases relativement courtes aux bébés. Et donc, ça rend la tâche encore plus difficile de savoir si c'est la langue A ou la langue B.
Pourtant, malgré la difficulté, les bébés y arrivent très vite. On sait qu'ils sont capables de discriminer très tôt la prosodie des langues, les rythmes et les sonorités, mais plus surprenant encore, les bébés de moins d'un an se servent d'indices grammaticaux.
Est-ce que vous savez qu'à 8 mois déjà, les bébés, ils savent dans quel de deux types de langues ils sont? Donc ces deux types, c'est des langues comme la plupart des langues qu'on connaît, où les mots grammaticaux, donc les articles, les pronoms, les prépositions, arrivent avant le mot de contenu. Donc on dit « à Paris »,« la banane »,« je vois ». Mais dans l'autre moitié des langues, c'est le contraire. Donc en japonais, en turc, aussi en basque, c'est d'abord le mot de contenu et après ce petit mot grammatical. Alors à 8 mois, les bébés ont déjà compris ça, dans quelle langue ils sont. Ils savent déjà si les mots grammaticaux viennent avant les mots de contenu ou après. Et donc là, comment ils font ça? C'est à nouveau, c'est la statistique. Parce que ces petits mots grammaticaux sont ultra fréquents. Donc « le » et « la » et « je » et « a » et « dans » sont des mots qui sont beaucoup plus fréquents que « voiture »,« banane »,« chaussure ». Oui. Pendant qu'on parle, banane, voiture et chaussures commencent à être très, très fréquents. Croyez-moi, les mots de fonction, les petits mots grammaticaux, monosyllabiques, sont très, très fréquents. Et donc, c'est comme ça aussi que les bébés, ils peuvent commencer à savoir s'ils ont dans la langue où ces mots grammaticaux précèdent ou suivent. Donc, par exemple, toutes les phrases en français, on a tendance à commencer par un de ces petits mots plutôt que de se terminer par un de ces petits mots. Donc ça, c'est un indice. Et ça, les bébés, ils sont sensibles à ce genre d'indice.
Quelle oreille ils ont, ces bébés?
Ouais.
Discriminer les différentes langues, reconnaître là où finissent et là où commencent les mots, exploiter les informations statistiques pour apprendre de nouveaux mots, tout cela, c'est déjà un exploit.
On sait qu'à 6-7 mois, les bébés, ils reconnaissent déjà certains mots.
Comme quoi?
Alors, là aussi, il y a deux choses. Il y a reconnaître la forme des mots, donc reconnaître que banane est un mot, que chaussure est un mot. Et deuxièmement, il y a comprendre quel est le sens de ces mots. Savoir qu'une banane, ça représente ce fruit-là, c'est une banane. Ok, donc ça, c'est deux choses différentes. On sait que les tout premiers mots que les bébés reconnaissent, c'est maman, papa, c'est leur propre prénom. Je ne veux pas dire qu'ils savent déjà ce que veut dire leur propre prénom, mais au moins, ils reconnaissent cette forme sonore.
Comment font les bébés pour comprendre le sens des mots? Ils ne peuvent pas demander d'explications aux adultes qui les entourent. Alors comment font-ils? Les bébés mémorisent les contextes dans lesquels les mots se produisent et ils généralisent à de nouveaux mots. C'est-à-dire qu'ils utilisent le contexte dans lequel apparaissent les mots nouveaux pour deviner leur sens. L'apprentissage du sens des mots est ce qu'on appelle un processus d'inférence, c'est-à-dire en liaison avec un contexte. C'est encore un autre défi que les bébés doivent relever. Et cela semble tellement complexe que cela fait rire Sharon Pepperkamp.
C'est gigantesque, le problème.
Je j'en suis sûre. C'est un miracle, on se demande même comment on a appris à parler, c'est un miracle.
C'est un miracle, effectivement. Parce que quand je dis « Ah, regarde les chiens », on va prendre « chien » plutôt que « banane » ou « voiture » pour une fois. Ok, bon, donc « chien ». Ah, regarde le petit chien. Bon, qu'est-ce que ça peut dire « chien » ? Imaginons un chien dans un champ qui joue avec un ballon. Est-ce que le mot chien, ça fait référence à la scène, à ce petit animal qui joue avec quelque chose? Est-ce que ça fait référence au ballon? Est-ce que ça fait référence aux oreilles du chien? Est-ce que ça fait référence à la couleur de sa peau? Comment on appelle ça chez le chien?
De ses poils.
De ses poils, voilà. Voilà, donc ça peut vouloir dire tout un tas de choses quand on regarde une scène comme ça. Et c'est quand même assez rare qu'il y a une table complètement vide avec un seul objet dessus et on pointe vers l'objet et il y a le bébé qui regarde là où on pointe et nous aussi on regarde là et on dit « chien ». C'est pas comme ça que ça marche.
Non.
Donc ça, c'est un autre grand problème, comment inférer le sens des mots.
Alors comment ?
Bah, comme je disais, ce qui est très important, c'est cette interaction sociale, quand même. Parce que même s'il n'y a pas cette table vide avec rien d'autre, et moi qui pointe, et le bébé qui regarde, et moi qui dis uniquement monosyllabiquement « chien », quand même, il y a beaucoup de fois où on joue avec un objet, par exemple, et on le nomme plusieurs fois, on échange des regards avec les bébés et vers l'objet, etc. En fait, il y a un papier très récent qui est sorti, par une équipe française et qui a montré que ce qui est vraiment utile pour l'apprentissage des mots, c'est qu'on réagit aux bébés qui, eux, sont proactifs. Donc, si le bébé regarde un objet ou le prend entre ses mains et moi, en tant qu'adulte, je regarde aussi vers l'objet et je le nomme, ça, c'est utile.
Et c'est en même temps que l'apprentissage des mots.
Mais attendez, parce qu'il y a aussi... Là, on peut parler un petit peu de différence culturelle.
Ah bah oui.
Parce que il y a aussi des bébés qui évoluent dans un environnement où, par exemple, ils passent la plus grande partie de la journée sur le dos de leur mère, qui travaille dans les champs ou qui travaille, je ne sais pas, qui fait des travaux manuels. Et donc, où il n'y a pas cette face-à-face. Et ces bébés-là aussi, ils acquièrent leur langue maternelle. Donc, cette acquisition est quand même très robuste à tout un tas de types de variations.
Eh oui.
Et c'est très important d'étudier aussi l'acquisition du langage dans ces autres cultures.
Ça veut dire que l'acquisition, les mécanismes d'apprentissage de la langue maternelle sont d'une certaine manière plus robustes, plus puissants que... toutes les différentes manières qu'on aurait de l'apprendre.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Une autre étude très récente, donc ça, ce sont des bébés qui portent pendant une journée entière un petit enregistreur dans un petit vêtement. Okay, donc, on peut analyser combien de paroles ils ont entendues dans vraiment plein de langues différentes et plein de cultures différentes. Et en fait, il y avait toutes les... l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud...
tous les continents.
Tous les continents.
Ah, l'apprentissage du langage.
Donc, par exemple, ils étaient en Bolivie, ils étaient en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ils étaient aussi aux États-Unis, en France, etc., et en Afrique, au Gabon, je crois. Et donc, ils ont ces enregistrements. Ils regardent combien ces bébés produisent eux-mêmes, vocalisent eux-mêmes. Et donc, ce qu'ils ont observé, c'est que ce qui prédit le mieux la production chez les bébés, ce n'est pas, par exemple, le statut socio-économique de la mère ou des parents. Et donc, c'est vraiment la quantité de paroles qu'ils entendent.
C'est ça.
Et ça peut être de la parole, d'ailleurs, qui est entendue, produite par les petits frères et sœurs. Donc, il y a aussi énormément de cultures où il y a plus d'interactions entre les bébés avec dans la fratrie qu'avec les parents qui ont peut-être autre chose à faire pendant la journée.
Les mécanismes d'apprentissage des langues maternelles sont d'une grande complexité. Sharon Peperkamp est admirative de ce que les bébés surmontent comme difficulté pour apprendre leur langue. Cela l'amuse aussi beaucoup de voir les bébés accomplir cela avec tant de facilité. Mais encore une question. Comment font les bébés pour apprendre la syntaxe et les règles grammaticales qui régissent les langues?
Mais quand même, tout ce que vous me décrivez, c'est de l'ordre de la course d'obstacles pour le bébé, pour l'apprentissage du langage.
Ouais.
Ou alors une tellement forte envie...
Un défi. Il faut se rendre compte quand même que le langage, c'est un système extrêmement complexe. Donc, on a un nombre de sons, consonnes et des voyelles, qui est fini, petit, entre 10 et plusieurs dizaines, disons, en fonction de la langue. Après, il y a le lexique, il y a les mots, le niveau des mots. Alors, en théorie, le nombre de mots est infini, parce qu'on peut toujours créer de nouveaux mots. Dans la pratique, pas tellement. Dans la pratique, on connaît plusieurs dizaines de milliers de mots, et on arrête là à peu près. Mais maintenant, les phrases, on peut en produire infiniment beaucoup, et on peut les enchasser les unes dans les autres. Je peux commencer une phrase et ne jamais m'arrêter. Et donc, c'est ça le langage, c'est cette interaction entre ces trois niveaux de représentation, les sons, les mots, les phrases. Et c'est ultra compliqué. Et en plus, c'est réalisé de 5 ou 6 000 façons différentes, parce que c'est autant de langues qui sont parlées sur la planète. Et aussi, n'oublions jamais les langues signées. Les langues des signes sont des langues naturelles, comme les langues parlées. Donc, quand je dis son, je pourrais aussi dire les sons ou les signes. Et les règles grammaticales sont dans une large mesure arbitraires et très complexes, et on a des connaissances très fines. Et les enfants, très très jeunes, ont les mêmes connaissances. Je vais vous donner un exemple.
Ouais.
Quand je vous dis, elle a dit que Marianne a acheté une pizza. Ok. Alors, elle, est-ce que ça peut faire référence à Marianne ?
Non, pour moi, non.
Non, pour vous, non. Pour personne, je vous assure, pour personne. Alors, est-ce que vous avez une idée pourquoi elle ne peut pas faire référence à Marianne ?
Bah, certainement, grammaticalement, je pourrais vous l'expliquer, non ? Sujet, je ne sais pas.
Non. Alors, la plupart des gens, ils vont dire, parce qu'elle, c'est un pronom, donc il faut déjà avoir introduit les référents auparavant. Donc, je ne peux pas vous dire « elle » pour parler de Marianne si je n'ai pas encore introduit Marianne précédemment. Donc, « elle », forcément, ça fait référence à quelqu'un d'autre que j'ai déjà introduite dans la conversation.
Ah oui.
« Elle » a dit que Marianne a acheté une pizza. Donc, « elle », ça ne peut pas être Marianne. Gardez ça en tête. Maintenant, je vous dis « la pizza qu'elle a achetée hier n'a pas plu à Marianne ». Est-ce que « elle » peut faire référence à Marianne?
Ouais.
Et pourtant, elle précède Marianne. Et maintenant, il n'y a plus ce problème.
Et ça, les bébés, ils font comment avec ça?
Et ce qui est incroyable, c'est à l'âge le plus bas auquel on peut tester les bébés sur ce genre de phrases, les bébés, ils ont les mêmes connaissances fines. Ils savent déjà cela.
Mais alors, c'est à quel âge?
3 ans. Et combien de phrases est-ce qu'ils ont entendues pour pouvoir faire cette inférence? Combien de phrases longues ils ont entendues du type « la pizza qu'elle a achetée n'a pas plu à Marianne » ? 0. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui ont regardé les corpus de paroles parlées aux enfants. Bon, peut-être avec un peu de chance, on en trouve une, mais en général, il n'y a pas assez d'input aussi spécifique, aussi complexe, pour que les bébés puissent faire l'inférence en regardant tout simplement de qui on parle, qu'est-ce qu'on mange, etc., etc. Donc les bébés, ils ont une connaissance innée, il faut bien le dire, de certains principes grammaticaux qu'on trouve dans toutes les langues. Et donc là, c'est un principe syntaxique qui est hyper compliqué, que je ne veux pas vous expliquer ici, mais les bébés, ils le savent déjà. Et est-ce que vous savez comment on a découvert cela ?
Non.
Parce que ce n'est pas si évident que ça pour un bébé de 3 ans. Pour nous, de demander à un bébé de 3 ans, est-ce qu'elle peut faire référence à Marianne ou pas ? Alors, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a des expérimentateurs qui jouent avec des poupées. Il y a une poupée qui annonce quelque chose, qui annonce une phrase. Et à la fin de la scène, il y a une marionnette qui demande au bébé « est-ce que c'est vrai ou c'est faux ?»
et le bébé doit répondre à la marionnette. Et pourquoi le bébé doit répondre à une marionnette ? Parce que si le bébé doit répondre directement à l'expérimentateur, c'est très très difficile de dire à l'expérimentateur « Non, 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 vous vous êtes trompé. » Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'on a montré que les bébés, ils savent déjà quand un pronom peut faire référence à un nom qui est produit plus tard dans la phrase.
Avant de clore cet entretien avec Sharon Pepperkamp, je tiens à revenir sur le mot « inné » qu'elle vient de prononcer. Est-ce que l'on peut dire que les mécanismes d'apprentissage des langues sont innés ? Est-ce que cette idée est partagée par la communauté scientifique ou fait-elle encore débat ?
Moi, je l'affirme. Je pense qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Mais je suis prête à me battre là-dessus, mais pas ici. C'est un débat entre
chercheurs.
Entre chercheurs, voilà.
Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut dire que les mécanismes d'apprentissage de la langue maternelle ou des langues maternelles sont innés ?
Oui, ce sont des mécanismes spécialisés que seul l'espèce humaine a à sa disposition. Et ce n'est pas quelque chose de laquelle on doit être fier, hein, parce que toutes les espèces ont leur capacité absolument merveilleuse. Par exemple, les oies sauvages savent s'orienter sur les constellations pour s'orienter dans la nuit. Voilà, nous, on ne peut pas apprendre ça, c'est pas...
C'est ça, mais c'est les mécanismes qui sont innés.
Oui.
C'est pas, parce que l'apprentissage ne peut pas être inné, c'est impossible, c'est une contradiction. C'est les mécanismes d'apprentissage qui sont innés.
C'est les mécanismes qui sont spécialisés qu'on a à notre disposition, mais c'est aussi certains principes qui sont quand même pré-câblés.
C'est-à-dire des connaissances zéro, ça c'est des choses que j'ai apprises, des choses qui sont là dans le cerveau, des capacités ou des connexions qui sont là dans le cerveau avant l'apprentissage, pour les mécanismes. Donc les mécanismes de l'apprentissage sont innés.
Donc il y a un principe syntaxique. Donc la syntaxe, c'est l'étude de la structure des phrases.
Ouais.
Okay. Donc il y a un principe syntaxique qui explique très précisément pourquoi elle peut faire référence à Marianne dans la pizza qu'elle a achetée hier, elle n'a pas plu à Marianne. Ok. Et donc ça, ce principe, les bébés, ils l'ont.
D'accord.
On ne leur a pas mis dans le cerveau explicitement, ils sont nés avec.
En commençant cette série de podcasts, je n'imaginais pas que les bébés naissaient avec des connaissances grammaticales, mais aussi mathématiques, qu'ils pouvaient faire du skate ou être des poètes. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Flora Bernard et écrit par Zoé Varier. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.